Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Les plateformes numériques priées de faire le ménage sur leur site sous peine de sanctions, de plaintes et d'amendes. L'Union européenne a adopté cette nuit une législation renforcée pour lutter contre la haine en ligne, la contrefaçon et la désinformation. Nous serons à Bruxelles dans un instant, invité de ce journal Thierry Breton, commissaire européen. L'actualité à l'étranger et la guerre en Ukraine. Les bombardements s'intensifient dans le Donbass. Moscou, pour la première fois, communique un bilan humain après le naufrage du Moskva, un mort et 27 marins portés disparus. Le second tour de l'élection présidentielle demain, exemple dans ce journal d'un retraité qui se mobilise contre l'abstention. Et puis en football, PSG Lens et peut-être dès ce soir un 10e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. La météo et une dégradation par le sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Eh bien, en cette période de réserve, nous avons décidé de vous rediffuser l'enquête que nous avions consacrée aux dérives des centres dentaires low cost, des milliers de victimes édentées. Or, ces dérives, vous le verrez, sont toujours d'actualité.
Jacques Monin après ce journal. France Inter. L'Europe renforce donc sa législation sur le numérique et s'attaque aux zones de non-droit sur Internet. Haine en ligne, désinformation, contrefaçon. Après plusieurs mois de négociations, un accord a été trouvé dans la nuit entre la Commission, le Parlement et les États membres pour en quelque sorte faire le ménage sur Internet et lutter contre les dérives. En direct de Bruxelles, on retrouve notre correspondante Angélique Boin. Bonjour Angélique.
Bonjour, bonjour à tous.
Cette nouvelle législation vise à mieux faire respecter les lois européennes par les plateformes numériques.
Oui, ce sont les plus grosses plateformes de plus de 45 millions d'utilisateurs qui auront les contraintes les plus lourdes, les Google, Facebook, Twitter, qui font déjà la chasse au contenu haineux et aux fake news. Mais avec ce règlement, elles risqueront des amendes si l'on prouve qu'elles ne sont pas assez actives ou réactives, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'elles seront régulièrement auditées par la Commission européenne. Leurs algorithmes devront être publics et l'on pourra donc identifier et sanctionner celles qui ne respectent pas les nouvelles règles édictées. Autre point essentiel, les plateformes ou les moteurs de recherche de taille moyenne, comme Yahoo, Vimeo, jeuxvideo.com, n'auront certes pas le même niveau de contrôle, mais devront également se soumettre à de strictes obligations.
Et puis ce texte, Angélique, assez vaste, inclut aussi la possibilité, la publicité en ligne et la lutte contre la contrefaçon.
Oui, la publicité en ligne sera interdite en direction des mineurs, ainsi que le ciblage des internautes fondé sur des données sensibles comme la religion, l'orientation sexuelle ou politique. Enfin, les sites de vente en ligne sur lesquels on trouve trop souvent des produits contrefaits ou dangereux seront tenus à des contrôles aléatoires sur leurs fournisseurs. C'est un texte très important, Frédéric. Comme on l'a fait avec le règlement sur les données personnelles, l'Europe veut fixer un standard mondial sur ce qui circule sur Internet. Après le lobby intense des GAFAM pour en atténuer la portée, il faudra bien sûr voir sur pièce si cette loi très vaste est appliquée à la lettre, mais elle marque une avancée très importante dans la régulation d'Internet dont l'Europe se veut le fer de lance.
Angélique Boin, en direct de Bruxelles, merci. Invité de ce journal, Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur et du numérique. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Angélique Boin nous le disait, c'est un texte très important. Vous me disiez juste avant ce journal que les négociations avaient été longues. En tout cas, cette nouvelle législation européenne dont vous êtes à l'origine, Thierry Breton, consacre un principe. Ce qui est illégal hors ligne doit être illégal maintenant en ligne.
Absolument, et je crois que c'était attendu vraiment par tous nos concitoyens, par tous les parents, mais au-delà, par nous tous en Europe. Ce texte, il va s'appliquer pour l'ensemble des 445 millions d'Européens. Et c'était très important parce qu'on sait que auparavant, les grandes plateformes, les GAFAM, jouaient souvent un État contre l'autre. C'est terminé. Désormais, encore une fois, plus rien de ce qui pouvait se passer de façon impunie, comme avant, se fera en ligne. Et c'est effectivement une avancée majeure pour nos vies.
Alors Thierry Breton, sur un exemple très précis, très concrètement, que pouvez-vous dire aux parents dont les enfants se font harceler sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, au collège et au lycée? Que pouvez-vous dire aux adolescents qui sont victimes avec des conséquences parfois terribles? Qu'est-ce qui change pour eux?
Eh bien d'abord, je le dis à tous les adolescents. Désormais, si ceux-ci arrivent, ils auront la possibilité, et surtout, moi, on va les inciter à aller se plaindre. Il y aura donc un numéro particulier. Ils pourront le faire de façon soit anonyme, soit en apparaissant. On va les protéger. Et la plateforme aura l'obligation immédiatement de réagir. Et si elle ne réagit pas, eh bien, on a parlé tout à l'heure de la sanction, 6% du chiffre d'affaires. Mais s'il récidive, nous avons tenu, et j'ai tenu parce que c'était très important, il faut aussi des sanctions, je dirais, à la hauteur des dommages qui ont été créés, il faut bien le dire, dans nos vies, pour notre démocratie. Donc, nous aurons la possibilité d'interdire, purement et simplement, l'usage de ces plateformes, l'exploitation de ces plateformes sur le continent européen pendant un certain temps.
Pour ce qui concerne le revenge porn ou vengeance pornographique, également avec ces images diffusées sur qui visent une personne, c'est la plateforme qui sera également visée et sanctionnée à ce moment-là, dans ce cas-là.
C'est un sujet qui nous a beaucoup occupé. Effectivement, ce sera plus possible, et je le dis à tout le monde, il n'y a plus d'impunité désormais dans le monde de l'Internet. Trop souvent, on estimait que, finalement, quand on était sur Internet, on était abrité derrière un pseudonyme, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Bien sûr, on ne va pas faire de la surveillance en temps réel, mais si jamais il y a une plainte, tout de suite, on saura, et je le dis très simplement, retrouver l'auteur de cette plainte. Et il sera condamné. Donc, c'est vrai aussi pour revenge porn. On en a longuement discuté. Désormais, une victime pourra aller tout de suite se plaindre. Soit on identifie l'auteur et il sera sanctionné, soit on n'arrive pas à l'identifier tout de suite, et à ce moment-là, la victime pourra passer par les systèmes judiciaires et on le retrouvera.
Encore un exemple précis, si vous voulez bien, Thierry Breton, sur une affaire qui a bouleversé la France. La campagne de haine sur les réseaux sociaux, comme cela s'est produit avant l'assassinat du professeur Samuel Paty, cela ne sera plus possible aujourd'hui.
Mais non, parce que encore une fois, la haine, elle est déjà, heureusement du reste, contrôlée, régulée dans l'espace public. On peut pas insulter quelqu'un, votre voisin, sur son palier, dans la rue, comme ça, et de façon répétée. Donc, on fait la même chose dans l'espace numérique. Donc la réponse à votre question, c'est ce ne sera plus possible. Tous ceux qui s'imaginent, encore une fois, qu'ils étaient protégés derrière leur pseudonyme, je le redis, c'est terminé.
Thierry Breton, est-ce que toutes les plateformes vont être soumises à cette nouvelle législation ou juste les grosses plateformes? Qu'en est-il pour TikTok ou les ventes en ligne? On parle de Zalando, de Booking, etc.
Alors bien sûr, toutes les plateformes sont soumises à ces régulations parce qu'on ne peut pas avoir de zone de non-droit. C'est comme si on disait, bah, finalement, il y a les grandes artères, les grandes rues éclairées qui sont bien contrôlées et puis les ruelles sombres, on peut faire n'importe quoi. Non. Toutes les plateformes seront contrôlées. Mais c'est vrai que plus vous êtes important, plus vous avez d'obligations. Et donc, comme Angélique Boin vient de le rappeler, au-delà de 45 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 10%, on a pris ce chiffre parce que c'est 10% de la population européenne, eh bien, vous aurez des obligations encore plus importantes, parce qu'évidemment, plus on est important, plus on est gros, plus on doit avoir de responsabilités, et plus il faut réagir rapidement. Et je le dis aussi, réagir partout dans tous les pays, bien sûr la Commission, donc pour ces grandes plateformes, c'est nous, et c'est sous ma responsabilité que l'on va contrôler l'ensemble de ces plateformes, y compris les moteurs de recherche, y compris les algorithmes. On sait que les algorithmes, c'était le secret le plus caché des plateformes. Désormais, nous allons pouvoir auditer ces algorithmes pour voir ce qu'ils font, pour voir comment ils poussent des contenus. On sait, et je le dis très clairement, et ils le savent, que beaucoup de contenus haineux, de contenus polémiques, de contenus à forte viralité, comme on dit, étaient poussés par ces algorithmes parce que ça provoquait beaucoup de diffusion et donc beaucoup de publicité. Ce sera interdit. Et ceux qui font ça, 6% d'amende ou, s'il continue, interdiction d'opérer sur le territoire européen. C'est une législation absolument majeure.
Thierry Breton, en quelques secondes, il nous reste peu de temps, sur les publicités ciblées vers les mineurs, sur les publicités ciblées en fonction sur des données sensibles, en fonction de ses croyances religieuses, quelle est la législation?
Interdit, totalement interdit. Et là encore, ceux qui se feront prendre, bien, ne pourront plus opérer en Europe. Et on remet tout simplement les choses comme elles devaient être mises. C'était très difficile, c'est pour ça que ça a duré si longtemps, mais je crois que c'était très nécessaire et très attendu par nous tous et par tous les parents.
Cette nouvelle législation entre en vigueur Alors, la fin de l'année,
elle va rentrer en vigueur pour les grandes plateformes 6 mois après la publication au journal officiel, c'est-à-dire à l'automne. Et puis pour les plus petites, on va leur laisser un petit peu plus de temps d'ici la fin de l'année 2023 pour qu'elles aient le temps de s'adapter. Mais donc ça veut dire qu'effectivement, dans les mois qui viennent, tout va changer.
Merci beaucoup Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur et du numérique. Merci à vous.
Merci.
L'actualité à l'étranger, c'est avant tout la guerre en Ukraine. Cela fera 2 mois demain que la guerre a débuté. Les bombardements s'intensifient dans le Donbass et la région de Louhansk. Les villes contrôlées par les forces ukrainiennes dans cette région de l'est de l'Ukraine subissent des frappes intenses et constantes selon le gouverneur de la région. Autre ville sur laquelle se porte toute l'attention et l'inquiétude, Mariupol. Mariupol, ville stratégique sur la mer d'Azov où une nouvelle tentative d'évacuation de civils se prépare pour aujourd'hui. Une ville libérée selon Moscou, mais qui résiste encore selon Kiev, notamment dans le complexe métallurgique d'Azovstal, à l'est de la ville. L'armée russe a mis en place un siège, abandonné l'idée d'un assaut après les violents combats pendant plusieurs semaines. Anna Ognianik et Thibault Lefebvre ont pu joindre Svetlana. Elle a 75 ans. Elle a pu fuir Mariupol il y a 4 jours. Elle est aujourd'hui à Donetsk, dans le Donbass, occupée par les Russes.
Presque 2 mois sous les bombes, Svetlana et sa fille Olga ont vécu dans un sous-sol sans eau, avec de la nourriture rationnée dans le quartier de Levoberejny. C'est à seulement 300 mètres de l'usine métallurgique.
On était pris au piège entre les soldats russes qui visaient Azovstal et les Ukrainiens qui ripostaient dans l'usine. Nous, on était au milieu et les obus envoyés des deux côtés nous tombaient dessus. Au moment où un obus approchait puis explosait, c'était comme un tremblement de terre.
Le 30 mars, Olga a été blessée par un éclat d'obus. 19 jours après, les deux femmes ont pu fuir, mais ce sont les Russes qui ont imposé leurs conditions.
Mariupol était encerclée et les Russes nous ont indiqué une route pour sortir. Ils nous ont dit, soit vous mourrez cette nuit car il y aura un assaut, soit vous partez, mais on ne savait pas où. Il y avait des Russes et des soldats tchétchènes sur des blindés. Les bus sont arrivés et puis nous sommes partis. Nous n'avons pas eu le choix.
Svetlana et Olga sont aujourd'hui à Donetsk, hébergé par de la famille. Mais là aussi, les conditions de vie sont compliquées. L'eau est accessible seulement 2 heures par jour et les combats redoublent de violence à seulement une dizaine de kilomètres.
Thibault Lefebvre, et parallèlement et pour la première fois, la Russie communique le bilan humain après le naufrage du croiseur Moskva. Il a coulé le 14 avril dernier. Une information donnée ce matin par le ministère russe de la Défense, Nathanaël Charbonnier.
C'est en tout cas la première fois que la Russie reconnaît des pertes après le naufrage de ce navire amiral. Si l'on en croit les Russes, le bilan serait donc d'un marin mort, de 27 disparus. Les 396 autres marins qui étaient à bord auraient été évacués. Un bilan officiel qu'il est impossible de vérifier. Il faut savoir par exemple que ce genre de navire est capable de compter 680 membres d'équipage. Or, personne n'est en mesure de dire combien d'hommes se trouvaient à bord lorsqu'il a coulé. S'ajoutent à cela les explications des autorités russes. Dans un premier temps, elles avaient expliqué avoir évacué l'ensemble de l'équipage avant donc de changer de version. Il faut dire qu'entre-temps, des témoignages sur les réseaux sociaux avaient fait état de marins disparus, dont notamment des appelés effectuant leur service militaire. Dans tous les cas, on navigue dans le secret défense, ce qui explique aussi que les versions sur son naufrage diffèrent. Pour les Russes, ce sont les mauvaises conditions météo qui ont entraîné l'explosion de munitions à bord. Les Ukrainiens, eux, affirment avoir coulé le bâtiment avec des missiles.
En France, le second tour de l'élection présidentielle demain, des électeurs d'outre-mer et de l'étranger votent dès aujourd'hui en raison du décalage horaire. D'abord Saint-Pierre et Miquelon, puis la Guyane, les Antilles, le Pacifique et l'océan Indien. Depuis hier soir, minuit, la campagne est officiellement terminée. 48 700 000 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour un scrutin présidentiel où l'abstention sera encore une fois la grande inconnue. Au premier tour, le taux d'abstention s'était élevé à 26,31%. Et pour cette élection présidentielle, certains se battent pour que l'abstention soit la plus faible possible. C'est le cas sur la Côte d'Azur avec, par exemple, François Sittler, 70 ans. Il a enregistré une chanson, un slam, dans un studio à Cagnes-sur-Mer contre l'abstention. Alexis Arédet, de France Bleu Azur, a rencontré l'auteur de ce slam.
Eh bien, au départ, une discussion entre amis et ce constat, les Français ne votent plus. Cela interpelle François Sittler. Il faut agir.
Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter ma pierre à l'édifice ? Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une chanson.
Sans grande expérience dans la chanson, il écrit le texte pour inciter tout le monde à se déplacer.
Je ne suis peut-être qu'une voix, mais elle a pour moi tout son poids.
Le style du slam, ce n'est pas anodin.
Vous vous doutez que, bien évidemment, il y avait l'arrière-pensée, effectivement, d'avoir un rythme à la mode et qui, effectivement, touche les jeunes.
Et du coup, pourquoi ne pas viser haut avec cette chanson ?
Bien évidemment, j'ai pensé à Grand Corps Malade, j'en ai contacté d'autres, mais en fait, sans retour. Et finalement, je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, on va la chanter nous, et du coup, on l'a enregistrée.
Un enregistrement peut-être moins prestigieux, mais qui permet tout de même d'apporter sa pierre à l'édifice.
Tout à fait, je l'ai fait avec beaucoup d'ambition, mais tout autant avec beaucoup de modestie.
Et voilà, le tour est joué. La chanson est née.
Alors, bonne écoute et allons voter. Non à l'abstention.
Voilà, un slam avec Alexis Arédès de France Bleu Azur. Et ce vote demain pour le second tour se déroulera en plein cœur des vacances scolaires pour les trois zones. Des vacances de Pâques bénéfiques pour le tourisme. Après un bel hiver pour les acteurs de tourisme, les bonnes nouvelles se poursuivent. Les réservations sont en hausse pour quasiment l'ensemble du secteur, ce qui ne s'était pas vu depuis 2 ans. Et l'épidémie de coronavirus, Didier Arino, directeur général du cabinet conseil ProTourisme.
Le démarrage de la saison pour les campings, pour les locations de meublés, avec des taux d'occupation qui sont en très forte hausse par rapport à 2019 et de très belles perspectives pour les semaines qui viennent. Les campings battent des records de réservations. C'est aussi le cas des locations de meublés avec Gîtes de France qui bat des records de fréquentation. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est le retour des clientèles étrangères et notamment à Paris, qui était la dernière destination à progresser, qui retrouve des chiffres dignes d'avant-crise, avec pour la première fois en ce mois d'avril, des taux d'occupation et des recettes moyennes qui progressent par rapport à 2019, ce qui ne s'était pas vu depuis 2 ans.
Didier Arino avec Ersin Lebovic sur France Info. Sans doute la conclusion ce soir de la saison de Ligue 1 de football, du moins pour le titre de champion de France. Le PSG reçoit Lens lors de cette 34e journée. Un match nul suffit aux Parisiens pour décrocher leur 10e titre de champion de France de leur histoire. Et le Parc des Princes attend beaucoup de ses stars ce soir. Neymar, Messi et Mbappé qui seront alignés au coup d'envoi. Mais l'ambiance dans les tribunes risque d'être bien terne avec des supporters tiraillé. Julien Froment, France Bleu Paris.
Sur le parvis du Parc des Princes, Frédéric, 38 ans de supporterisme, n'est pas emballé par la saison de son équipe. Pour autant, il faut célébrer ce soir le 10e titre de champion de France, si bien sûr titre il y a.
Ça reste un titre, ça n'a pas été une très bonne année, mais bon, ça reste un titre. Voilà, je suis content. Sans plus.
Un avis que ne partage pas le collectif Ultra Paris. Son président, Romain Mabille, a rappelé sur les antennes de France Bleu Paris que les ultras restaient sur leur position, à savoir la grève des encouragements. Une position que ne comprend pas Mickaël, maillot rouge et bleu sur le dos.
Non, c'est pas bien. Je trouve qu'ils devraient plus soutenir leur équipe, surtout dans des moments comme ça. Puis après, c'est dit triste, c'est super prestigieux, quoi. Donc, je pense que ça sera les seuls avec Saint-Etienne à avoir 10 titres, donc je pense qu'ils devraient arrêter leur grève et puis soutenir leur équipe pour de bon. Quoi. Comme a dit Marquinhos la semaine dernière, il y a un moment pour tout et là je pense que c'est pas le moment pour le faire.
Il faut donc s'attendre ce soir à une drôle d'ambiance avec des tribunes tiraillées entre d'un côté la joie d'entrer dans les cahiers d'histoire du football français et la volonté de l'autre de maintenir la pression sur la direction pour être entendu.
Voilà, PSG Lens, coup d'envoi à 21h. Le choix culturel pour ce week-end avec une sensation. Kirikou fait son entrée au musée du Louvre, d'abord avec une rétrospective intégrale des films d'animation de son créateur Michel Oslo. Il va également participer à la prochaine exposition Pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata. Le conte et les cultures africaines trouvent ainsi leur place et vont attirer, à n'en pas douter, de nombreuses familles au Louvre, Amélie Perrier.
Cela ressemble à un conte, l'histoire d'un réalisateur autodidacte, Michel Oslo, appelé par le musée du Louvre pour se joindre à l'exposition sur les pharaons des deux terres, en Nubie, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le créateur de Kirikou n'a pas hésité une seconde.
C'était d'une part l'Égypte, dont je suis amoureux depuis la classe de 6e, et d'autre part, il s'agissait d'Afrique noire. C'est là où j'ai appris à lire et à écrire. J'ai aussi maintenant une personnalité d'Africain avec Kirikou. Et cette dynastie venue du Soudan qui a régné pendant quelques temps sur l'Égypte, c'est exactement ce qui m'intéressait.
Ce conte sur les rois de Napata diffusé dans l'exposition sera aussi un chapitre du prochain film de Michel Oslo prévu en salle à l'automne. Mais en attendant, le Louvre a voulu également proposer une rétrospective de Kirikou à Dilili à Paris en passant par Princes et Princesses ou Azur et Asmar. Et quand on demande à Michel Oslo d'imaginer Kirikou dans les galeries du musée parisien...
Oh, ça l'amuserait et il courrait partout. Bon, il irait voir la Joconde, puis il dirait « Ah bon, c'est ça ? C'est tout petit et verdâtre ?» C'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu quand j'étais petit.
Du conte à l'histoire avec un grand H, une épopée qui ne fait pas peur à Kirikou ni à son vaillant créateur.
Kirikou est la rétrospective de Michel Oslo au musée, au studio du musée du Louvre et l'exposition Pharaon des Deux Terres à partir de jeudi prochain et jusqu'au 25 juillet.